sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Gravures et estampes contemporaines sont au programme du mois de février 2011 dans l'émission mensuelle sur le pont des arts. L'estampe et la gravure en France sont des arts délaissés par nos contemporains. Penchons-nous sur un art trop isolé à travers la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts, une petite section forte de 4 membres. Y siègent Pierre-Yves Trémois, peintre, graveur et sculpteur, les graveurs Louis-René Berge, Éric Desmazières et René Kiewic, tous représentants de cet art intimiste. Comme chacun sait, la gravure fut une technique de reproduction très en vue pendant des siècles. Le XIXe siècle fut pour elle un âge d'or que le développement de la photographie éclipsa au fur et à mesure. Artistes, photographes, peintres l'ont utilisée pour faire connaître leurs œuvres, mais s'en sont également servis pour explorer leur écriture graphique. Art à part entière, de la Mélancolia de Dürer aux planches en couleur de Toulouse-Lautrec, la gravure aujourd'hui est cependant peu visible dans le paysage de l'art contemporain, bien qu'elle offre le moyen de connaître un artiste comme nulle part ailleurs. Exigerait-elle une rigueur trop sévère? La disparition des taille-doussiers, des imprimeurs, des ateliers dédiés à la gravure accompagne son évanouissement silencieux dans les replis du temps qui passe. Pourtant, la gravure résiste, grâce au soutien de quelques galeristes comme Michel Brouta et Arsène Bonafou-Mouira. L'académicien Éric Desmazières, élu en 2008 au sein de l'Académie des Beaux-Arts, évoque dans l'interview qui suit l'histoire et l'actualité de la Société des peintres graveurs français, créée en 1889 par Degas, Rodin et d'autres, toujours active, installée à Paris dans le 16e arrondissement. Éric Desmazières, son actuel président, nous en dit plus. Éric Desmazières, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Société des peintres graveurs français.
Qui président.
Est... Président. Pardon. Président.
Enfin, membre depuis longtemps.
Voilà, membre depuis longtemps et président de la Société des peintres graveurs français. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société qui est une petite institution dans le monde de l'estampe?
Alors, c'est une société qui a été créée en 1889, donc elle a plus de 120 ans, 122 ans. Elle a été créée par un groupe d'artistes, parmi lesquels il y avait Eugène Carrière, Braquemont, Degas, Rodin. Et elle existe toujours. Alors que quand même, 120 ans pour une association privée d'artistes, c'est quand même une très grande longévité. C'est à noter que 1889 est également la naissance de deux grandes institutions parisiennes, la Tour Eiffel et le Moulin Rouge. Donc la Société de peintres graveurs est tout à fait, vous voyez, dans une tradition très ancienne. Alors c'est une société d'artistes et d'amateurs, c'est-à-dire que c'est une réunion d'artistes, peintres graveurs, c'est-à-dire pas forcément uniquement graveurs, comme l'étaient d'ailleurs Rodin, Degas, Carrière, et parallèlement de membres amateurs, qui sont donc des collectionneurs, des amateurs de gravures, qui paye une cotisation annuelle qui permet donc à la société d'avoir quelques moyens. Ces moyens servent à éditer des gravures annuellement et à organiser une fois tous les deux ans une exposition.
Dans un endroit particulier?
Alors, cette exposition a eu lieu avant-guerre dans divers endroits, notamment des galeries qui lui offraient l'hospitalité. Puis, il y a eu une période où la Bibliothèque nationale a accueilli les expositions des peintres graveurs. Ensuite, ça n'a plus été possible. Il y a eu un petit moment de flottement. Il y a eu une exposition qui était d'ailleurs remarquable à l'Orangerie du Luxembourg. Puis, depuis un certain nombre d'années, à peu près, je pense que c'est la 10e fois que ça se produit à cet endroit, l'exposition a lieu à la mairie du 6e arrondissement, place Saint-Sulpice.
Tous les deux ans?
Tous les deux ans. Donc, elle aura lieu cette année, du 30 mars au 20 avril 2011.
Très prochainement, donc.
Donc oui, dans un mois et demi.
À cette occasion, sont présentées beaucoup d'œuvres, enfin.
Alors, quand l'exposition avait lieu à la Bibliothèque nationale, ça se faisait en collaboration avec la Bibliothèque nationale, et il était en général rendu hommage à un artiste à l'occasion de chaque exposition, artiste dont des gravures étaient fournies par la Bibliothèque nationale, c'était pratique. Il y avait eu comme ça un hommage à Mérion, un hommage à Bresdin. Enfin, il y a eu. On mettait en parallèle à l'exposition des membres artistes et de leurs invités, car nous invitons à chaque exposition des membres extérieurs à l'association. Mais depuis que l'exposition n'a plus à la Bibliothèque nationale, c'est moins pratique de se faire prêter des œuvres patrimoniales. Donc, on a un petit peu changé la thématique et nous organisons maintenant des expositions thématiques. C'est-à-dire que nous avons organisé, par exemple, une exposition consacrée à la technique de la gravure, la manière noire, qui est une technique très particulière.
C'était il y a 2 ans ?
Non, ça c'était il y a plus longtemps que ça. Il y a 2 ans, nous avions organisé, j'ai un trou de mémoire, nous avions organisé une exposition consacrée, je crois, au taille-doucier, aux ateliers imprimants des gravures, à Paris, en province. Et qui sont d'ailleurs beaucoup dans des situations fragiles. Et d'ailleurs, on a vu que depuis que cette exposition a eu lieu, beaucoup ne sont plus là, ont fermé.
Je vous ai interrompu, vous parliez de cette technique
de la manière noire. Oui, oui. Mezzotint, comme disent les Anglais, qui est une technique de gravure qui consiste à partir du noir pour aller vers le blanc. C'est-à-dire qu'on graine une plaque, c'est-à-dire qu'on la rend avec des stries dans tous les sens, on la rend en cadre. Si on l'encre, c'est tout noir. Et avec des instruments qui polissent, on fait apparaître des gris et même des blancs. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée par les Anglais, les Hollandais, pour des reproductions de tableaux. Car effectivement, c'est une technique qui n'est pas une technique de trait, mais de valeur, qui se prête à l'interprétation de la peinture et qui a donné lieu à des magnifiques gravures aussi d'anatomie. C'est-à-dire que c'est une technique qui a été utilisée au XVIIIe, notamment par Gautier d'Agoty, Jacques-Fabien Gautier d'Agoty, qui a réalisé des planches à but scientifique d'ailleurs, mais qui ont un grand intérêt artistique, qui sont des écorchés, etc. Alors ça, c'est une technique qui a été utilisée aussi en couleur. Et donc, cette technique existe toujours. Elle a eu beaucoup de succès au Japon. Il y a eu des artistes japonais comme Hamaguchi, comme Hasegawa, qui vivaient en France, qui ont eu beaucoup de succès avec cette technique. Et il y a eu un artiste français, notamment, qui s'appelle Mario Avati, qui est mort en 2009, qui a été un maître de la manière noire. Donc, on avait organisé. Bon. On a également organisé une exposition sur la bibliophilie. Et cette année, nous organisons une exposition consacrée aux artistes européens, non français, disons, d'un certain nombre de pays. Il n'y a pas de thématique, sinon qu'on invite donc ces artistes, qui sont souvent connus dans leur pays, mais pas du tout exposé en France. Et en général, assez jeune d'ailleurs, ce qui en plus...
Jeune, c'est-à-dire ?
Enfin, disons, à partir de 40 ans. Voilà.
Jeune chez les artistes.
Jeune chez les graves. Alors, je peux vous donner quelques noms, mais... Enfin, je vais vous donner le nom de quelques-uns parmi eux qui se trouvent un intérêt. Notamment, on invite un artiste qui s'appelle Frans Pankoek, qui a dû naître en 1940 et qui est néerlandais, qui vit depuis très très longtemps à Cadix, mais qui a une œuvre qui avait été montrée à Paris dans les années 70 et qui va être montrée à nouveau cette année à l'Institut néerlandais à partir du 24 mars. Et qui est un excellent artiste qui fait plutôt de la pointe sèche et beaucoup de gravures alors figuratives, beaucoup d'animaux, de paysages, d'insectes. Un travail de très grande qualité. Donc on montre ce travail, ce qui est bien, ce qui sera en parallèle avec l'Institut néerlandais. On montre également le travail d'un artiste néerlandais qui s'appelle Charles Donker, D-O-N-K-E-R, qui avait été montré également à l'Institut néerlandais mais il y a fort longtemps, et qui est d'ailleurs un très grand ami de ce Pankoek, et qui est un peu dans la même thématique. On montre aussi le travail d'un Polonais qui s'appelle Krzysztof Skurczewski, qui est né en 1948 et qui vit et travaille à Cracovie, mais qui vient d'avoir un prix prestigieux en Italie, qui est le prix de gravure, le prix amateur d'estampes Leonardo Sciascia, en mémoire du grand écrivain sicilien qui était grand amateur de gravure. Et cet artiste n'a jamais eu d'exposition en France. Donc, on est content de pouvoir montrer son travail, qui est un travail au burin, et des espèces de constructions architecturales imaginaires très, très impressionnantes. On montre aussi le travail d'un Polonais, Piotr Szurek, qui fait des grands, grands portraits à la pointe sèche, de très grandes dimensions, 1 mètre. Ou bien également l'artiste slovène Zafet Zec, Z-E-C, qui avait une très belle exposition à Lille il y a quelques années, mais qui, à ma connaissance, n'a jamais eu de grande exposition dans une institution parisienne, et qui est un Slovène qui vit à Venise. Donc comme ça, ça fait des croisements européens. On invite également un jeune artiste, alors là qui est plus jeune, Matthias Gribler, excellent artiste autrichien. Bon, alors, il y a quand même une particularité dans tous ces artistes, c'est que c'est quand même figuratif, disons. C'est quand même une thématique figurative. et avec des moyens d'expression traditionnels de la gravure.
Vous décelez un renouveau de la gravure comme ça au niveau de l'Europe
En tout cas, ce que je décèle, c'est qu'il y a une créativité européenne très morcelée, parce que je suis certain que pour beaucoup de ces artistes, ça sera l'occasion de se rencontrer, en tout cas de se rencontrer au sein du catalogue. Donc il y a une créativité, mais très morcelée, disons que toutes ces églises, disons, ne communiquent pas entre elles forcément, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de les montrer ensemble.
Vous parliez d'un travail plutôt figuratif, est-ce que les graveurs sont plus dans l'abstraction, là, en ce début de 21...
Il me semble être plutôt dans la figuration, il me semble. Mais je vois ça peut-être de mon point de vue, je suis un artiste figuratif, j'ai aucune animosité contre l'abstraction. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'exposition que la Bibliothèque nationale vient de consacrer à Hans Hartung, qui était une magnifique exposition où il y avait un magnifique travail de gravure. Non, il se trouve que cette société est plutôt figurative, mais bon, c'est un peu... C'est pas du tout un a priori. On montre aussi une artiste roumaine qui vit en Finlande, Tizi Fib, qui va plus vers l'abstraction. Alors, oui, comme quoi.
Donc, on invite les auditeurs à venir à cette exposition.
C'est du 30 mars au 24 avril, place Saint-Sulpice, à la mairie du 6e arrondissement. Et d'ailleurs, nous publions à cette occasion un catalogue illustré.
Éric Desmazières, avant qu'on passe sur la revue, est-ce que vous voulez dire autre chose sur ce sujet ?
Oui, je voudrais parler de cette société des peintres graveurs.
Oui, on n'a pas été.
Donc, non, mais c'est quand même, disons, le principal de son activité, quand même l'organisation de cette exposition, et également un travail d'édition, c'est-à-dire que tous les ans, pour ses membres amateurs, qui sont actuellement 120, il y a même une liste d'attente d'ailleurs, de gens qui souhaitent faire partie de la société, nous éditons des gravures et que les années passant, on peut constater une amélioration de la qualité. Enfin, il y a vraiment cette année...
Il y a un travail d'édition ?
Oui, c'est-à-dire que la société publie des gravures qui sont destinées à ses membres amateurs. Et vraiment, c'est un travail de bonne qualité dans un monde de la gravure assez fragilisé où les éditeurs ont pour beaucoup disparu. On s'aperçoit qu'une société comme ça, qui est à but non commercial et qui est gérée par des bénévoles, finalement fait un travail plus qu'honorable du point de vue artistique.
Est-ce que cette réunion d'amateurs et d'artistes, justement, est féconde pour la survie ?
Oui, parce que la dernière exposition a rencontré plus de succès que la précédente. Nous organisons un dîner. L'année où il n'y a pas d'exposition, il y a un dîner qui réunit les artistes et les amateurs au Sénat en général. Et cette année, ça a été un grand succès. Donc on peut considérer que dans le paysage de la gravure, c'est une société qui tient son rang, enfin qui fait même mieux que ça. C'est donc plutôt encourageant.
Il y a beaucoup de sociétés de l'estampe,
oui,
ou de la gravure.
Oui, il y a la société de la gravure contemporaine, il y a Pointe et Burin, il y en a un certain nombre. Celle-ci est la plus ancienne et probablement peut-être celle qui... Le morcellement dont je parlais au niveau de l'Europe existe aussi entre ces sociétés. C'est vrai que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de communication. Il y a une espèce d'entité qui s'appelle Manifestant, qui essaye de fédérer toutes ces activités pour qu'elles se connaissent les unes les autres, qui a été d'ailleurs présidée par mon confrère et ami Louis-René Berge, et qui est maintenant présidée par Maxime Préaux, qui est graveur et conservateur honoraire de la Bibliothèque nationale, qui était le directeur de la réserve de la Bibliothèque nationale, où se trouvent les chefs-d'œuvre, disons, de l'estampe conservée à la Bibliothèque nationale. Donc il y a une espèce de volonté quand même que les choses se sachent, parce qu'il est vrai que le monde de l'estampe est fragile. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir qu'en trois ou quatre imprimeurs très importants ont disparu, notamment Frélo Lacourrière, et puis l'atelier Leblanc, qui était probablement le plus ancien, à mon avis, en Europe, qui était 187 rue Saint-Jacques et qui a fermé. Voilà, donc tout de même, on voit, justement, en invitant des gens plus jeunes, on s'aperçoit quand même, et qui sont très contents d'être invités d'ailleurs, et très contents d'exposer à Paris, on s'aperçoit qu'il faut... Aide-toi, le ciel t'aidera, disons. Si on est actif, on s'aperçoit qu'il y a du répondant. Voilà.
Dans le monde de la gravure, la revue Nouvelles de l'Estampe a une place de toute première importance. Retrouvons Éric Desmazières pour nous présenter cette revue originale dont il vient d'intégrer le comité de rédaction. Vous avez la gentillesse de venir nous présenter également aujourd'hui la revue Nouvelles de l'Estampe, dont vous êtes,
je fais partie du comité de rédaction depuis peu d'ailleurs.
Du comité de rédaction.
C'est une revue trimestrielle qui est éditée par ce qu'on appelle le Comité national de la gravure française, qui est une entité qui est abritée par la Bibliothèque nationale. Et c'est une revue très scientifique, c'est-à-dire qui publie beaucoup d'articles d'universitaires ou d'étudiants, etc., sur des sujets plutôt concernant la gravure ancienne. Mais il se trouve que le rédacteur en chef vient de prendre sa retraite, Gérard Sourd, et est remplacé par un nouveau rédacteur plus jeune, qui est un conservateur de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle Rémi Matisse, M-A-T-H-I-S. Et donc, on attend de ce changement, c'est le temps qui passe, c'est normal, hein. Enfin, il va y avoir un changement de maquette, et on attend de cette revue, qui est principalement vendue par abonnement, mais qui tout de même est vendue dans des points de vente aussi à Paris, et qui est de très bonne qualité, et qui est... Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde. Il y a une revue qui s'appelle le Print Quarterly en Angleterre, qui est tout à fait son équivalent en anglais et qui est totalement privée. Alors, mais cette revue qui est abritée par la Bibliothèque nationale, mais qui n'est pas l'émanation du cabinet des estampes, qui n'est pas tout à fait... Mais c'est une revue qui essaye de montrer justement l'actualité de l'estampe. Et justement, mon souci entre cette société des pains de gravel, les nouvelles de l'estampe, etc., c'est de créer des liens. Et on s'aperçoit que, justement, la gravure est effectivement un monde où, qui pêche par son... Chacun fait un peu sa
son
cuisine
isolement.
Dans son coin, quoi. Et donc, si toutes ces choses se rassemblaient, elle aurait beaucoup plus de visibilité, car c'est ça, elle souffre, c'est un manque de visibilité. Cette visibilité lui est aussi donnée par le Salon de l'Estampe, qui a lieu à Paris à l'extrême fin du mois d'avril, je crois, au Grand Palais, et qui aussi, comme les Nouvelles de l'Estampe, où ils sont présents d'ailleurs... On montre de la gravure ancienne et de la gravure contemporaine.
Les Nouvelles de l'Estampe proposent quel type d'articles de recherche? Parce que c'est assez complet, ça fait une centaine de pages sur papier glacé.
Souvent, on voit arriver au comité de rédaction des gens qui ont fait des études sur tel ou tel point de la gravure et qui souhaitent que ça soit publié, donc on juge de la qualité et on publie. Alors ça peut être des articles extrêmement pointus. Hein. Je lis par exemple dans le numéro...
Ça peut être un peu à caractère scientifique.
C'est à caractère scientifique, dans le numéro de novembre 2010... Je lis, par exemple, Erhard Schildzor, peintre et graveur à Strasbourg, dans la première moitié du XVIe siècle. On peut dire, comme on peut le dire à propos d'un instrument pour la gravure, c'est pointu. Mais le même numéro rend un remarquable hommage au peintre et graveur Avigdor Harika, qui est mort en 1910 et qui était un excellent artiste, qui vivait en France et qui a été un peintre vraiment remarquable, enfin dont personnellement j'aime beaucoup le travail et qui a donné une grande partie de son ou la totalité de son œuvre à la Bibliothèque nationale. Et il y a justement un récapitulatif de l'œuvre de cet artiste qui a été, entre autres choses, un très grand ami de Samuel Beckett, dont il a fait beaucoup de portraits. Et donc, voilà, ça permet aussi de... pointer l'attention du public sur des artistes en particulier, ayant en plus une rubrique de compte-rendu d'exposition et également une rubrique d'événements qui rend compte des expositions futures
et
ou actuelles.
Et une rubrique portrait.
Et une rubrique portrait qui fait le portrait d'artistes contemporains. Donc cette revue est très complète, très belle.
Oui, parce qu'elle est sur, vraiment la... sur papier glacé avec des reproductions
une très belle revue.
Magnifiques.
Voilà, donc on espère que cette revue...
Est-ce que la revue défend une position particulière
non,
dans les arts?
Non, justement, elle prend bien soin de ne pas privilégier un courant artistique par rapport à un autre. Disons qu'elle est soucieuse quand même de la qualité de ce qu'elle montre, de la qualité des rubriques qu'elle montre et aussi de la qualité des articles qu'elle publie.
Est-ce qu'elle a un site internet? Oui.
Alors, elle a un site, oui, www.nouvelledelestampe.fr. Voilà. Et elle est domiciliée à la Bibliothèque nationale de France, mais sur le site Richelieu, qui d'ailleurs n'a plus la même adresse, qui est maintenant 5 rue Vivienne, 75 002 Paris.
On ne souhaite que longue vie aux Nouvelles de l'Estampe qui sont déjà...
Qui sont donc à leur numéro 233.
Voilà, qui sont presque aussi
234
pense, anciennes que la société des peintres
graveurs.
Un petit
peu moins ancienne. Ça a été créé par Jean Adhémar, qui était le conservateur, le directeur du département des estampes. Et ça paraissait d'ailleurs au début sous forme renéauté. C'était vraiment héroïque. Et puis petit à petit, ça a pris comme ça une ampleur. Et maintenant, c'est une revue de très belle qualité.
Merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie.
L'Académie des Beaux-Arts a attribué pour la troisième année le prix Naed Odjed 2010 à Yves Doaret, ce prix créé par Naed Odjed, correspondante de l'Académie, est doté de 15 000 euros et récompense l'œuvre d'un graveur confirmé. Ses gravures au burin et ses peintures évoquent la condition de l'homme de la naissance à la mort dans un monde fantastique de paysages ou de cités imaginaires. D'autres prix sont décernés par l'Académie, comme nous le rappelle l'académicien Louis-René Berge dans l'interview qui suit, consacrée à la création du cabinet des estampes contemporaines de la bibliothèque de l'Institut de France, dont il est à l'origine. Louis-René Berge, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans la bibliothèque de l'Institut de France, où vous avez eu l'initiative de créer un cabinet d'estampes contemporaines au sein de cette bibliothèque, depuis que vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, où vous avez été élu en 2005. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord le cabinet, mais surtout comment est venue cette idée ?
Bon, cette idée est venue parce que je fréquente beaucoup la Bibliothèque nationale, j'ai des amis là-bas. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi, au fond, à la bibliothèque de l'Institut, il n'y aurait pas un dépôt de gravure ? C'est proche du livre, ça ne tient pas trop de place. Et puis, c'est un souvenir tout de même important d'une section qui est la nôtre, qui est une petite section.
Vous êtes combien exactement ?
Nous sommes quatre. C'est-à-dire que c'est une petite section qui demande à être un petit peu connue. Et au fond, c'est pour ça que j'ai pensé que au fond, ça deviendrait un souvenir pour les académiciens décédés. Pour le moment, on ne parle pas des académiciens vivants. Et ensuite, j'ai pensé, un an après, qu'au fond, on pourrait aussi demander aux artistes qui ont eu des prix donnés par l'Académie qu'ils puissent déposer une gravure.
Donc en fait, il y a deux parties dans ce fonds, à la fois des gravures déposées par les héritiers des membres disparus de l'Académie des Beaux-Arts, qui étaient graveurs, et puis les lauréats qui chaque année reçoivent un prix et à qui vous demandez de bien vouloir déposer une gravure au cabinet des estampes contemporaines de la bibliothèque de l'Institut de France.
Voilà, très bien. Bon, il y a en fait, si vous voulez, deux prix, les grands prix et les prix moins importants. On leur demande donc de déposer une gravure. Mais en ce qui concerne les académiciens décédés, on leur demande un dépôt de 20 gravures. Et donc, par contre, pour les artistes qui ont eu des prix, on leur demande une ou deux gravures. Alors nous avons fait une présentation ici, que vous pouvez voir, et nous avons sorti, au fond, trois gravures qui sont très emblématiques de ce qu'est la gravure, c'est-à-dire un graveur très classique, et puis deux autres plus contemporains, et qui ont transformé, au fond, l'écriture de la gravure.
On a sous nos yeux trois magnifiques gravures.
Alors, nous avons Jacquemin, qui, alors, lui, est un très bon dessinateur, très classique, mais qui a une écriture très, très sensible. C'est de l'eau forte. Cette gravure, c'est de l'eau forte. Il fait de l'eau forte et de la pointe sèche. Il a été, bien sûr, académicien. Il était, je crois, conservateur du musée de Colmar. Alors, ensuite, sur la droite, alors on passe brusquement à un graveur qui a utilisé... Alors, c'est un buriniste qui a utilisé le burin d'une manière tout à fait particulière et inventive, en ce sens qu'il a vraiment une écriture très, très particulière. Et il y a des gens qui se servent de l'outil de la gravure un petit peu comme ils utilisent la peinture ou du dessin. Et lui, il a utilisé la quintessence de son outil qui est le burin.
Les trois sont burinistes.
C'est, je vous ai dit, c'est de l'eau forte. Et puis, les deux suivants, c'est-à-dire Vieillard et Granier, ce sont des vrais burinistes. Et chacun ont une écriture très particulière. Ils ont utilisé l'outil pour l'intelligence de cet outil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment inventé une manière de se servir de l'outil et qui donne des traits très particuliers.
Louis-René Berge, dans la gravure de Roger Vieillard, sous nos yeux, on voit un corps avec aussi des impressions du papier en relief.
Vieillard aimait beaucoup le burin, si vous voulez. C'est tout de même, ça se rapproche un petit peu de la sculpture, c'est-à-dire qu'on creuse. Donc, il a utilisé, au fond, le relief que donne le burin. Et il l'a utilisé d'une manière très puissante. Hein. D'où, vous voyez, ces creux importants. Il creusait même la plaque. Là, c'est la plaque qui est creusée, carrément. Et il a vraiment bouleversé le travail du burin.
avec un mélange un peu figuratif et avec des
les sujets sont très figuratifs pour la plupart. Il a fait quelques gravures abstraites, mais au fond, lui, sa passion, c'était l'utilisation de son outil.
Alors passons peut-être à la gravure qui est sous nos yeux. C'est une autre gravure au burin, c'est
alors,
cela ?
Oui, alors Granier, que j'ai bien connu, était un graveur pratiquement, il n'a fait que du burin de sa vie.
Jean-Marie Granier est considéré comme un grand classique de la gravure.
Oui, c'est un grand graveur. Classique, je ne dirais pas. Je dirais par exemple, plutôt, Jacquemin est un classique. Par ses paysages, il a fait des portraits, il a fait des choses. Mais ça reste très classique. Alors que la gravure de Granier est, entre guillemets, très inventive. Il en a fait énormément. Et je me souviens qu'à l'Académie, pendant nos séances, il passait son temps à dessiner, à gribouiller. Et c'était vraiment un homme qui a fait, je ne sais pas, 2000 gravures. Ce ne sont pas toutes des gravures tout à fait finies, mais il passait son temps, il avait tout le temps l'outil à la main. Voilà. Alors Degary, c'est un phénomène.
C'est un autre académicien disparu.
Et qui est mort il y a assez longtemps, qui était, lui, a fait, je ne sais pas moi, 2000 gravures, mais c'était un homme prodigieux. Mais sa gravure était très classique, mais les sujets... Alors on lui demandait, par exemple, de représenter la cathédrale de je ne sais où. Allez, il faisait la cathédrale. Ensuite, on lui demandait de faire un paysage. Allez, il faisait un paysage. Son œuvre est extrêmement abondante. Et il avait une écriture, disons, plus simple enfin, que ce dont je vous ai parlé là. Il utilisait le burin parce que c'était son outil, mais son burin à lui, c'était, il savait remarquablement buriner, bien entendu, mais ce n'était pas un burin très caractéristique. Il utilisait ça un peu comme, je dirais, la plume, mais avec ce qu'apporte le burin, c'est-à-dire le creux.
Alors, dans la gravure, là, sous nos yeux, de Jean-Marie Granier, qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer, justement, de ce travail ?
Il utilisait le burin et il a fait, à la fin, c'est dommage qu'on n'en ait pas de cette série, il a fait des très grands burins. Ce qui est, le burin, au fond, s'est fait plutôt pour des petites gravures. Et lui a pris des grandes planches. Alors, c'est abstrait, hein ? C'est toujours abstrait. Non, au début, quand il était à la Casa, j'ai vu à la Casa des gravures de lui qui étaient figuratives. Mais déjà avec une déformation, déjà avec ces paysages passés par lui tout de même. Et puis ensuite, il a fait beaucoup, beaucoup d'abstraits, beaucoup, beaucoup d'essais, jusqu'à avoir une plénitude totale de son savoir.
Madame Guibou, vous êtes conservateur en chef au sein de la bibliothèque de l'Institut de France et vous êtes en charge de ce cabinet d'estampes contemporaines. Alors, à cette date, aujourd'hui, en février, combien d'estampes
Nous avons une centaine de gravures.
C'est la première fois qu'un fonds, une collection comme ça est créée ici, à la bibliothèque de l'Institut?
Oui, c'est un projet tout à fait nouveau. Donc, bien sûr, à la bibliothèque sont conservées des estampes anciennes et ça répond tout à fait à la mission de la bibliothèque de conserver et de mettre en valeur les œuvres des académiciens. Pour le moment, donc, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir les ranger et les présenter. Il n'y a pas beaucoup de place à la bibliothèque, donc on est en train de repenser au rangement et on va essayer de dégager un endroit où ces gravures seront présentées. Mais c'est encore un projet.
Monsieur Berge.
En ce qui concerne les lauréats, nous avons deux sortes de prix. Les grands prix, qui sont le prix Nanéogé, qui est un prix donc de 25 000 euros que nous avons donné déjà à trois personnes. Ça fait trois ans qu'on a ce prix. Alors nous avons eu Muron, qui est un graveur au burin tout à fait remarquable, de précision. Ensuite, nous avons Colin, Pierre Colin, qui est aussi un graveur. Alors, ce n'est pas au burin, lui, c'est de l'eau forte, mais une gravure très personnelle. Et puis, ensuite, cette année, nous avons donné le prix à Doraré, qui a, lui, commencé par le burin. Nous avons là, d'ailleurs, l'exemple d'une estampe au burin. Il a assez vite abandonné le burin pour faire de la gravure sur bois. Et il fait des très très grandes gravures sur bois qui sont magnifiques. Et puis maintenant, il s'est mis un petit peu à la peinture, sur le tard, je dirais. Mais enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est ses burins et ses gravures sur bois. Donc il a déposé deux gravures. Alors ça, ce sont les prix de prestige et de consécration. Et puis ensuite, nous avons un prix qui est une bourse, qui est importante, qui est 4000 euros, qu'on donne soit à une personne, soit le prix est partagé. Et puis ensuite, nous avons une dizaine de petits enfin, entre guillemets, de petits prix qui sont de l'ordre de 2000 euros. Alors, il y en a une dizaine. Alors, ça, ce sont des prix annuels. Il y en a qui sont biannuels. Et il faut les conserver également. Voilà.
Et merci beaucoup. Nicole Guibou, que vous venez d'entendre, conservateur en chef de la bibliothèque, en charge de ce fonds récent, a fait réaliser des montages portefeuilles et des boîtes justement pour conserver les œuvres. En avril 2010, Louis-René Berge a souhaité enrichir le tout jeune cabinet des estampes des gravures des lauréats. À ce jour, 8 artistes ont fait un don de gravures. Au total, en février 2011, le cabinet d'estampes contemporaines de la bibliothèque de l'Institut de France contient 106 gravures. Le mois prochain, sur le Pont des Arts, vous donne rendez-vous pour un numéro consacré au dessin et à son actualité.